Dialogue entre le Congolais présent avec Alain Ronk à la présentation.
Bonsoir et bon début de semaine à tous. Deux thèmes au centre de cette émission. Premier thème, dans une interview exclusive à Radio Okapi, Étienne Tshisekedi confirme la participation de l'UDPS aux élections de 2011. Quelle analyse faire de cette déclaration du leader de l'UDPS après plusieurs mois de silence? Deuxième thème, le président du Conseil régional des ONG de développement du Bas-Congo propose l'installation d'un consulat congolais dans la province angolaise de Cabinda pour gérer les expulsions des Congolais. À part cette proposition de consulat, quelles pourraient être d'autres mesures pour humaniser les expulsions des Congolais de l'Angola? Pour le premier thème, nous aurons deux invités, Valentin Moubaké, président du Comité national de l'UDPS. Bonsoir, monsieur Valentin.
Bonsoir.
Thierry Landou, analyste politique et professeur à l'Université de Kinshasa. Lui, il est en ligne. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Étienne Tshisekedi signe son retour sur la scène politique. Dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi, le président de l'UDPS, vous allez l'entendre, confirme la participation de son parti aux élections de 2011. Il encourage d'ailleurs les Congolais à s'enrôler massivement. Il déclare que l'idéal de l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est la conquête du pouvoir et se dit bien portant sur le plan sanitaire. Étienne Tshisekedi est interrogé par Georges Kamoudova.
La situation des réfugiés congolais de l'Angola est dramatique. Notre gouvernement doit agir dans l'urgence, a indiqué ce lundi à Radio Okapi Yves Tombé, président de la
Voilà, excusez-nous pour cette fausse note. J'ai dit qu'Étienne Tshisekedi signe son retour sur la scène politique. Dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi, le président de l'UDPS, vous allez l'entendre, confirme la participation de son parti aux élections de 2011. Il encourage d'ailleurs les Congolais à s'enrôler massivement. Il déclare que l'idéal de l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est la conquête du pouvoir et se dit bien portant sur le plan sanitaire. Valentin Moubaké, en attendant d'avoir l'élément d'Étienne Tshisekedi, vous êtes avec nous dans ces studios. Comment vous analysez ce message d'Étienne Tshisekedi?
Je dois vous dire que ce message est venu bien à propos. C'est depuis longtemps que tout le monde nous disait de demander au président national de parler, de sortir de son silence. Il vient de le faire. Son message relève au moins 5 points importants. Le premier point, c'est celui-là que vous soulignez, c'est celui de la participation du parti aux élections de 2011. En fait, le président national de l'UDPS fait sauter un piège. Vous vous rappelez que M. l'abbé président de la CEI avait entamé à Kinshasa l'enrôlement pour visiter le fichier électoral.
L'abbé Malumalu.
Voilà, de 2005-2006. Et dans le cas du parachèvement de ce processus de 2005-2006, l'abbé Malumalu a procédé à revisiter le fichier électoral, mais il a commis la maladresse, selon l'UDPS, de faire un lien entre cet enrôlement pour parachever les élections de 2006 au niveau local et les élections de 2011, parce qu'il avait dit qu'il n'aurait plus enrôlement en 2011.
Alors, Valentin Moubaké, vous allez continuer, hein? La réalisation me fait signe que le son d'Étienne Tshisekedi est prêt. Je vous invite à l'écouter. Il est interrogé par Georges Kamoudjova.
Je pense que les élections, il faut que tout le monde y participe. C'est pour ça que j'ai demandé au secrétaire général du parti d'engager le parti dans cette voie pour qu'il y ait élection, que tout le monde puisse se faire enrôler. Je confirme que l'UDPS serait bien aux élections de 2011.
Pour la plupart des Congolais, l'UDPS semble être un souvenir politique. Il y a des luttes d'ambition terribles au sein de l'UDPS. Il y a l'aile Beltika, l'aile Mutanda, l'aile Moubaké. Est-ce que c'est dans ces conditions vraiment que vous pouvez aller aux élections?
Et c'est très dommage, je sais que vous dites ça, c'est très dommage que ça puisse se faire ainsi, de cette manière-là. De toute manière, très bientôt, je vais pouvoir prendre des décisions pour ramener tout le monde à l'unité, à l'union, à la cohésion autour de moi, pour que nous puissions préparer notre premier congrès et mettre le parti en ordre de bataille.
Voilà, Valentin Moubaké, vous étiez déjà en train d'analyser les éléments donnés par le président Étienne Tshisekedi. Vous parliez de 5 points. Est-ce que vous pouvez y aller rapidement?
Bon, les élections, l'enrôlement, le président national de l'UDPS demande à tout le monde de s'enrôler massivement, mais la précision de taille, c'est pour les élections de 2011. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le processus qui a commencé en 2005-2006, et qui sera parachevé vraisemblablement par les élections locales et communales, ne concerne pas l'UDPS. L'enrôlement, nous sommes prêts à le faire, le président national nous demande de le faire massivement, mais c'est pour 2011.
Le deuxième point?
Le deuxième point, c'est que Tshisekedi est en forme, il n'est pas mourant. Comme certains ont distillé des fausses informations dans l'opinion, comme pour discréditer son avenir.
Même si dans sa voix, on ne sent pas le Tshisekedi d'autrefois.
Ah, mais M. Tshisekedi a 77 ans, mais il est lucide, vous sentez qu'il n'est pas mourant, il est en forme, je vous dis, sa santé évolue positivement.
Troisième point.
Troisièmement, le président Tshisekedi confirme son leadership à la tête de l'UDPS. Il va prendre des décisions, il va consacrer l'unité du parti autour de lui. Donc il n'y a pas de doute possible qu'il y ait des ailes, ceci ou cela, c'est Tshisekedi le chef.
Quatrième point.
Quatrième point, M. Tshisekedi dit qu'il va incessamment convoquer le premier congrès de l'UDPS. Premier, ça veut dire l'aventure de Rigini a vécu. Que tout le monde comprenne que ce qui s'est passé à Rigini n'avait rien à voir ni avec Tshisekedi ni avec l'UDPS.
Cinquième point,
enfin, M. Tshisekedi a dit qu'il compatit, ça n'est pas passé dans l'élément, mais le matin c'est passé, il compatit avec le peuple congolais, il ne cesse de penser au peuple congolais sur le sort qui est le sien, le mauvais sort bien sûr.
Professeur Thierry Landau, vous êtes analyste politique et enseignant à l'université de Kinshasa. D'après vous, y a-t-il des enjeux politiques immédiats en attendant les élections de 2011 qui peuvent pousser Étienne Tshisekedi à s'exprimer après plusieurs mois de silence?
Ben, je crois d'abord qu'il y a une situation au sein de l'UDPS, ça lui-même l'a dit, et le collègue Mouba qui est en train d'en parler aussi. Il y a des dissensions à l'intérieur, et sur le plan politique, ça fait un peu cacophonique, et pour un grand parti, c'est pas très bon. C'est vrai qu'on revient sur scène, c'est vrai qu'on a entendu sa voix, mais les problèmes demeurent. Et quand j'entends le collègue Mouba qui parlait, sur l'interprétation même du discours de Tshisekedi ou de son adresse, ben écoutez, demandez à une autre personne, elle va commencer à interpréter autrement aussi. Donc, pour ne prendre que l'exemple du premier congrès de Rigini, bon, lui, il dit que c'est fini, ça n'existe plus, mais je suis sûr que les autres disent que c'était le point de départ de d'autres choses. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je crois que là, comme le président de l'UDPS le dit lui-même, il y a intérêt à ramener l'unité au sein de l'UDPS s'ils veulent aller aux élections, que ce soit en 2009 ou en 2011, ou même en 2010, là, s'ils n'y vont pas de manière unie, et qu'ils organisent les élections, qu'ils participent aux élections de manière cacophonique, ben, c'est eux qui seront les premiers perdants et les plus grands perdants.
Est-ce que pensez-vous qu'à ce jour, Étienne Tshisekedi sera-t-il réellement entendu?
Bon, je crois qu'il peut être entendu. De toute façon, vous savez, les partis politiques, tels que ça fonctionne chez nous, vous l'avez entendu, il va faire l'unité autour de lui, autour de sa personne. Et je crois que vous m'avez dit aussi, c'est lui le leader, c'est lui le grand leader charismatique. Bon, je trouve que c'est un peu malheureux que les partis continuent à fonctionner comme ça. Moi, j'ai cru qu'il allait faire le ralliement autour du parti, autour des idéaux du parti. Mais il dit encore, c'est autour de moi. Tant qu'il vivra, oui, ce sera autour de lui. C'est comme Gizenga, c'est toujours autour de lui. C'est comme Boutillier, c'était autour de lui. D'autres choses aujourd'hui qui tentent de le faire autour de leur personne. Mais je ne crois pas que l'avenir des partis soit toujours autour d'une personne. C'est vraiment autour de partis qui deviennent de vraies institutions et qui ont des structures réelles et qui laissent de l'espace pour les uns, pour les autres, pour les ambitions des uns et des autres. Et je crois que là, l'UDPS peut être a péché parce que c'est le plus grand parti, il faut le reconnaître, c'est l'un des plus grands partis de ce pays. Et comme les autres partis, en fait, les structures qui peuvent pérenniser justement l'action de ce parti ne semble pas exister. Et c'est plus des querelles entre individus, tendance telle, tendance telle autre, comme on est en train de le vivre aujourd'hui.
Valentin Moubaké, vous allez réagir au propos du professeur Thierry Landou, je vous vois d'ailleurs prendre note. Mais au sujet d'Étienne Tshisekedi qui appelle au rassemblement autour de lui, il y a Kaungu Ernest, cet auditeur de Londres en Grande-Bretagne, il dit « Le problème avec Tshisekedi est que l'UDP, c'est un parti politique qui n'existe qu'autour d'un seul homme Tshisekedi et ne fonctionne qu'autour d'un seul homme Tshisekedi encore. Avec cette vision, pour moi, l'UDP est un parti mort et enterré. »
Vous savez que Tshisekedi est président national de l'UDPS. Tshisekedi est le chef historique de l'UDPS depuis bientôt trois décennies. Tshisekedi, c'est une figure de proue sur le plan politique au niveau national. Cela veut dire que, bon gré mal gré, la vie de l'UDPS s'est confondue avec la personne de M. Tshisekedi. Mais,
donc avec la disparition de Tshisekedi, l'UDPS
attendez,
est également...
Attendez, je vous dis, mais l'UDPS ne date pas d'hier. Ça veut dire que c'est un parti qui a eu le temps de se structurer. C'est faux d'affirmer ici que l'UDPS peut disparaître après Tshisekedi, alors que l'UDPS dispose des statuts du règlement intérieur qui n'ont rien à voir avec une personne. Moi qui vous parle, je suis président du comité national, un organe central du parti. Je dirige un organe, M. Tshisekedi dirige un organe, il y a un secrétariat national, le gouvernement du parti. Moi, je suis le président du parlement du parti, Tshisekedi est le président national. Cette structure-là n'est pas liée à une personne. Vous voyez bien qu'il y a distinction entre l'exécutif et le législatif, par exemple. Maintenant, si aujourd'hui, il y a eu des dissensions au niveau du parti, certains collègues se sont rebellés, je dis bien rebellés, contre la personne du président national et en violant même les statuts du parti. Il est tout à fait normal que le président national remette tout le monde à l'ordre et dit « Revenez autour du moi, je vais remettre de l'ordre au parti ». C'est tout à fait indiqué.
Voilà, la dissension au sein de l'UDPS, nous en avons plusieurs fois parlé dans cette émission. Mais pourquoi Étienne Tshisekedi décide de s'exprimer maintenant?
Il faut dire que, vous savez que sur le plan politique, d'abord au niveau interne du parti, avec tous ces problèmes-là, nous avons l'enrôlement, les élections à venir. Il y a eu cette cacophonie au niveau des élections locales. Le président national nous demande, confirme aujourd'hui qu'il a dit que nous allions tous nous enrôler, mais pour 2011, donc, il fixe le cap. Et ceci est d'autant bienvenu que vous savez que sur le plan national, maintenant, au-delà du parti, il y a des tentatives de révision de la Constitution, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais tout cela relève de la tentative de la survie de ce pouvoir au-delà de 2011. Il était donc tout à fait normal que Tshisekedi mette les points sur les i. En fait, il avertit tout le monde, et au niveau du parti, et au niveau national, en 2011, le mandat actuel prend fin et le parti doit d'ores et déjà se préparer pour la relève, pour la prise du pouvoir en 2011.
Professeur Thierry Landou, la dernière adresse d'Étienne Tshisekedi remonte, si je ne me trompe pas, à octobre 2007. S'exprimer aujourd'hui n'est-il pas tardif?
Non, je ne dirais pas que c'est tardif. Il faut toujours qu'à un moment donné, il puisse prendre la parole. Ça aurait été même fatidique qu'il ne prenne pas la parole et que Dieu l'emporte, quoi, par exemple. Imaginez qu'il soit mort sans avoir rien dit pendant toute cette période de cacophonie. Je crois que ça serait fini avec l'UDPS, malgré ce que mon frère Moubaké dit par rapport aux structures qui existent. Vous savez, rien que le fait qu'il utilise le terme rébellion de la part des autres qui se rébellent contre le président, ça montre bien qu'effectivement, il y a un problème. C'est que s'il y a une révision, c'est que les gens ne s'entendent pas avec vous et qu'au niveau de la structure, ben, ça a un impact négatif certainement. Mais je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'il fait une déclaration et il dit qu'il se positionne par rapport à 2011. Bon, pourquoi pas 2010 aux élections locales, par exemple? C'est ça la question qui serait intéressante. Pourquoi ils ne se positionnent pas par rapport aux élections locales au moment où ceux qui s'enrôlent, même au niveau de l'UDPS, tous ceux qu'on a vus au niveau de Kinshasa, sont en train de se positionner, eux, par rapport à 2010? Est-ce qu'ils ne risquent pas d'être en faux par rapport à son propre électorat s'ils doivent encore leur promettre d'attendre jusqu'en 2011? Quelle garantie ils ont? Parce que les 2010 vont essayer de baliser certaines choses. Est-ce que l'UDPS n'est pas encore prête pour 2010? Elle voudrait se préparer pour 2011? Ce sont des choix, ce sont des interrogations. Si ce n'est pas le choix de l'UDPS, alors l'UDPS doit faire des efforts pour expliquer cela à son électorat et à sa population. Parce que sinon, il risque encore d'être mal compris par la population et là, ça risque d'être fatal même en 2011.
Jean-Antoine Moubaké, vous réagissez aux propos du professeur Thierry Landou. En plus, il y a Sylvain de Kinshasa, cet auditeur, il dit « L'âge pourrait permettre à Tshisekedi de diriger le pays s'il serait élu en 2011, ne connaîtrons-nous pas le même problème que le patriarche Gizenga? Pourquoi ne veut-il pas céder le fauteuil? »
Bon, d'abord, au niveau des élections locales, vous savez que les élections locales, M. Thierry Landou, les élections locales qui sont programmées devaient l'être depuis 2006. C'est le parachèvement du processus qui a commencé en 2006. Et ce processus-là, L'UDPS l'avait décrié, l'avait qualifié de vicié et il demeure vicié. On n'avait qu'à voir comment le pays est géré après les élections. On se demande si réellement il y a eu des élections libres dans ce pays.
Mais ce n'est pas toujours la politique de la chaise vide. Là,
oui, mais ceux qui ont rempli des chaises n'ont rien apporté au pays, encore moins au parti. Ceux qui sont allés remplir des chaises, ils ont rempli plutôt leur poche. Donc, ce processus-là qui a commencé en 2006, il ne faut pas que l'UDPS, aujourd'hui, donne l'impression qu'il a eu tort en 2006, alors que toute la population lui donne raison de n'avoir pas participé à ces élections-là. Ainsi donc, M. Tshisekedi, tout à fait honnêtement, politiquement, il dit, en 2011, le mandat actuel prend fin. 2011, c'est un an et demi, tout au plus. Préparons-nous pour gagner ces élections en 2011 et mettons-nous au travail.
Et qu'est-ce qui aura changé?
Ce n'est pas avec des bourgmestres qu'on va changer ce pays.
Qu'est-ce qui aura changé d'après vous pour que vous preniez part à ces élections de 2011?
Mais nous disons ceci, nous sommes arrivés à un moment où nous ne pouvons plus dire aux combattants, tenez bon. Nous devenons responsables d'une mauvaise situation politique dans ce pays. Et cela veut dire ceci, c'est un message à l'endroit des gouvernants actuels. En 2011, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, l'UDPS participe aux élections. Et gare à ceux qui vont commencer à faire le tripotage comme en 2006, ils en assumeront la responsabilité.
Avant de donner la parole au professeur Thierry Landou, que répondez-vous à Roger de Lubumbashi au Katanga? Il dit, la personne qui est intervenue aux antennes de Radio Okapi n'est pas Étienne Tshisekedi. Rien qu'à entendre sa voix, son français et sa vision des élections, on comprend très bien que celui-ci n'est qu'une personne qui s'est fait passer pour le président national de l'UDPS.
Bon, en tout cas, pour moi, je confirme c'est Tshisekedi, mais c'est à vous, Okapi, de répondre à cette question parce que c'est vous qui l'avez interviewé. Moi, je confirme que c'est M. Tshisekedi qui a parlé. Je comprends qu'il y ait des gens qui ne voulaient pas que Tshisekedi précise certains points et qui se sentent déroutés dans leur démarche, mais je confirme que c'est Tshisekedi qui a parlé et d'ailleurs, il a annoncé des décisions que nous sommes en train d'attendre. Nous verrons tous ces décisions-là seront signées par lui.
Professeur Thierry Landou.
Oui.
Comment vous appréciez la réaction de Valentin Moubaké à votre question sur 2010?
Bon, j'ai dit ceci, c'est que 2011, si on ne prépare pas ça maintenant, ce sera aussi vicié que 2006. Et là, l'UDPS n'aura pas de raison de dire quoi que ce soit. Non, j'ai entendu Mbaké tout à l'heure, il dit ils ne peuvent pas cautionner un processus vicié qui a commencé depuis longtemps et ce serait trahir la population et tout ça. Je veux dire, ça fait rester dans la vieille logique. J'ai cru comprendre dans la déclaration de Tien Tshisekedi que cette histoire-là du passé, elle est passée. On tire les leçons par rapport à cela et on voit comment on s'engage, que ce soit par rapport à 2010 ou par rapport à 2011. Quand on dit qu'on ne gouverne pas le pays avec le bourgmestre, non, je crois qu'il faut quand même qu'on fasse la part des choses. C'est que les élections locales dans un pays, ce sont des élections aussi importantes que les autres. Il n'y a pas que les présidentielles. Parce que bon, les élus qui seront élus sur le plan local, c'est l'UDPS. Je prends l'exemple de la ville de Kinshasa. Si l'UDPS contrôle 12 communes sur 24, mais c'est un grand parti dans la ville. Elle a les moyens de faire pression. Mais si l'UDPS ne contrôle rien dans la ville, elle n'a même pas un gouverneur dans une province, et ça va être aussi un problème. Donc je crois que les calculs doivent se faire de manière systématique, et je crois qu'il faut aller au-delà de déclarations que je pense être plus des gardes partis politiques. Je comprends, il y a cette fougue, il y a cet engagement et tout, mais là, je crois qu'une déclaration comme celle-là positionne le parti par rapport à une vision claire jusqu'en 2011, mais il faut voir d'ici 2011, comment on y arrive, avec qui on prépare tout ça, est-ce qu'on continue dans la dissension, est-ce qu'on continue à dire que nous on a raison et que les autres ont tort, est-ce qu'on se regarde réellement pour aller de l'avant, parce que bon, à ce rythme-là, si tu sais qu'il parle une fois tous les trois ans, donc on attendra qu'il parle encore une fois vers 2011, ça risque d'être un peu tard à ce moment-là. Donc il est grand temps que les ténors de l'UDPS, les animateurs de l'UDPS, les ambitions, parce qu'en fait il y a plein d'ambitions au sein de l'UDPS, et comme il a dit, il ne faut pas que la population leur reproche des choses demain, mais il faut que ces ambitions-là se mettent ensemble dans une collégialité, et tout est peut-être l'exemple d'un autre parti au niveau de notre pays qui sait gérer ses ambitions, qui se tourne autour d'un leader, mais qui ne font pas de ce leader le quoi, à la fin du monde, pour le parti. Faire en sorte que cette structure dont ils parlent soit des structures réellement animées, mais qu'ils ne soient pas animées dans le conflit et qui donnent l'impression qu'en fait, on ne peut rien espérer de ce parti. Et c'est là le danger, à mon avis, et il est grand temps que, bon, on se ressaisisse et que les uns et les autres se mettent de l'eau dans leur vin et que, même sur le plan du discours, que les uns et les autres aillent vers le discours de réconciliation que j'ai cru entendre et comprendre de la part de Tshisekedi.
Valentin Moubaké, une brève réaction et nous allons passer aux réactions des auditeurs pour terminer cette première partie.
Je crois que M. Thierry Lalzo est en train de caricaturer ce que je suis en train de dire. Nous sommes d'accord pour l'unité, je l'ai dit, Tshisekedi l'a dit, il voit l'unité autour de lui. Et j'ai expliqué pourquoi il a dit autour de lui. L'UDPS n'est pas un parti d'un individu, d'une personne, c'est un parti structuré où il y a des organes, il y a des animateurs de ces organes-là. S'il y a une indiscipline au niveau du parti, il y a des têtes du parti qui règlent ces problèmes-là. Donc, les indisciplinés doivent savoir qu'il y a un régime disciplinaire auquel ils doivent se soumettre. Tshisekedi a annoncé des mesures, je ne sais pas encore dans quel sens ces mesures seront prises, mais je sais, le connaissant, que ce seront des mesures conformément à nos textes. S'agissant de 2010-2011, non, je n'ai pas dit qu'on ne gouverne pas le pays des bourgmestres. Je vous donne l'exemple aujourd'hui. Nous avons des bourgmestres qui sont nommés. Ils sont en train de se battre pour avoir, non pas la rétrocession, mais leurs droits financiers reconnus par la Constitution. Donc nous disons ceci, nous, de PES. Nous sommes prêts, nous voulons bien participer à toutes les élections, mais le changement qui nous est imposé, qui est demandé par la population dans ce pays, c'est un changement de leadership de ce pays pour remettre le pays sur les rails. Et nous n'avons pas d'autre choix par rapport à 2011. 2011, c'est un an et demi. Préparons-nous pour 2011. Ceux qui veulent parachever ceux qui ont commencé en 2006, s'ils veulent avoir leur bourgmestre qui le fasse, l'UDP se prépare pour 2011 pour changer complètement ce pays du sommet à la base. Voilà ce que nous disons. Nous ne sommes pas là pour minimiser le bourgmestre. Encore voilà. Ceux qui sont là, on se demande quelle est la on les considère comment?
Voilà, on vous a compris. Il y a Arsène Baritima de Goma Nord qui vous dit « Étienne Tshisekedi regrette car lui et ses partisans avaient refusé de s'enrôler. La politique de la chaise vide n'a jamais payé, qu'il laisse la politique aux jeunes car il risque de demeurer un éternel opposant. » Claver Kaassa dit « Ce retour de l'UDPS est tardif. Étienne Tshisekedi doit comprendre que son temps est passé, qu'il propulse plutôt des jeunes à sa place. » Brève réaction, Valentin Moubaké.
Mais on dit que Tshisekedi est opposant. Mais tant que les régimes actuels, aujourd'hui Tshisekedi vous dit le pays est mal géré. Qui peut contredire M. Tshisekedi? Mais c'est ça le problème. On voudrait que Tshisekedi en France ait un pouvoir qui n'est pas à la hauteur par rapport aux ambitions.
À 77 ans, pourquoi il ne laisse pas la place aux jeunes?
Vous savez qu'Abdoulaye Wade a 84 ans et vient de postuler pour un nouveau mandat. Ça pose problème. Mugabe a 84 ans, il est président du pays et il postule pour un mandat. Et ici, chez nous, on a vu un premier ministre de 84 ans, ça n'a posé aucun problème. Pourquoi vous dites que ça poserait un problème?
Professeur Thierry Landou, avant de vous libérer, il y a Oumoukou Anok de Bounia en province orientale, il dit « L'annonce de la participation de l'UDPS aux élections de 2010 n'est qu'une correction aux erreurs que ce parti a commises lors de la précédente élection. Tshisekedi doit savoir que l'UDPS n'a plus la popularité par le passé. »
Bon, je sais pas, moi je vais pas faire émettre des avis de valeur pour dire que c'était des erreurs ou quoi. Bon, ils ont toujours, le but de presse a eu des motifs pour pouvoir dire non aux élections qui se sont déroulées. J'entends mon bac revenir encore sur ces éléments-là. Le problème, c'est pas celui-là. Moi, je crois que ça, c'est du passé. C'est comme les élections, on va dire. On peut continuer à jaser là-dessus, à dire que c'était pas transparent, c'était pas ceci. Mais ces élections ont eu lieu, il y a quelqu'un qui a été élu, qui gouverne mal. Alors là, à ce moment-là, on peut commencer à juger sa manière de gérer. Qu'on parle des mouvements qui gèrent mal. Effectivement, ils gèrent mal, mais il faut mettre en place des structures pour pouvoir faire en sorte qu'ils gèrent bien. Et si ça, ça manque, mais c'est pas seulement des élections de demain qui vont corriger cela. Le leadership dont on parle, c'est pas seulement le leadership du sommet qui va corriger le pays demain. Le leadership, il doit émerger de partout. Il faut un leadership de changement qui anime toutes les structures et tous les espaces de notre pays jusqu'à la présidence pour espérer avoir quelque chose demain. Et là, je crois que l'UDPS doit prouver qu'elle est capable d'animer ce pays à partir de toutes ces structures pour pouvoir revendiquer un changement réel. Je ne crois pas à un changement au sommet qui va devenir un truc comme un miracle pour transformer toute la société. Ce sera juste un coup de pouce. Et si la base ne suit pas, ce coup de pouce, ce sera une épée dans l'eau. Donc je dis tout simplement ceci, c'est que qu'ils viennent maintenant, qu'ils aient raté le coup hier, parce qu'on peut faire des analyses sur ce qui s'est passé hier. Moi, je dis toujours, imaginez qu'il ait participé à des élections truquées, comme on le disait, lors des premières élections, et qu'il soit sorti deuxième. Le mouvement qui allait suivre sur le plan de la population à l'intérieur, personne n'avait prévu ça. C'était imprévisible. Et il aurait pu déclencher un processus différent de celui dans lequel nous nous sommes retrouvés aujourd'hui.
Pouvez-vous vous résumer, professeur?
Ça donnait une autre directive aussi. Il ne faut pas revenir sur ça, il faut plutôt essayer de voir quelles sont les leçons qu'on peut tirer. Mais aujourd'hui, quand on vient aux élections, mais il faut refaire cette popularité. Ça, c'est... À partir du moment où vous avez des dissensions, ça signifie que ça craquait de tous côtés.
Donc,
il faut pas croire qu'on est toujours aussi populaire qu'avant. Il faut être lucide et se regarder et dire comment on reconstruit cette popularité par rapport à 2011.
Merci professeur, c'est par là que nous arrêtons avec vous pour cette première partie de notre émission Dialogante Congolais. Merci d'avoir participé et au revoir professeur.
Merci beaucoup.
Voilà, deuxième thème de cette émission, le président du Conseil régional des ONG de développement du Bas-Congo propose l'installation d'un consulat congolais dans la province angolaise de Cabinda pour gérer les expulsions des Congolais. À part cette proposition du consulat, quelles pourraient être d'autres mesures pour humaniser les expulsions des Congolais de l'Angola? Nous traitons cette question avec Edmond Longo Kimbeza, député national PPRD, élu du territoire de Tshiela au Bas-Congo. Bonsoir, monsieur le député. National.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Valentin Vangindungi, président du Conseil régional des ONG de développement du Bas-Congo. Bonsoir, monsieur Valentin.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Et évidemment, avec Valentin Moubaké, que nous avons dans ce studio, président du Comité national de l'UDPS. Avant d'aborder cette partie, le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
La situation des Congolais expulsés de l'Angola est très préoccupante depuis plus de deux semaines, a indiqué le commissaire de district adjoint du Bas-Fleuve à Radio Kapi. Depuis le début de cette année, plus de 20 000 Congolais ont été expulsés de l'Angola, selon les chiffres fournis par les ONG des droits de l'homme du Bas-Congo. Ces ONG ainsi que certains officiels se plaignent des conditions dans lesquelles ces Congolais sont expulsés. Le vice-premier ministre en charge de la défense et de la sécurité, Symphorien Mutombo Bakafwa-Nsenda, est arrivé ce jeudi à Matadi pour s'enquérir de la situation. Plus de détails dans ce condensé de Guy Roger Nyampala.
La situation des réfugiés congolais de l'Angola est dramatique. Notre gouvernement doit agir dans l'urgence, a indiqué ce lundi à Radio Kapi Yves Tombé, président de l'Association internationale de défense des droits de l'homme de Boma. Selon lui, ces derniers temps, les refoulements ont lieu chaque jour au niveau de tous les postes frontaliers du Bas-Congo avec la République d'Angola, à savoir Tshiela, Yema, Maïdi, pour ne citer que cela. Pour la seule journée de jeudi, 24 septembre dernier, 900 ressortissants congolais ont été expulsés dans les territoires de Moanda. Des sources concordantes parlent de plus de 2000 refoulés en une semaine. Ce qui préoccupe les organisations non gouvernementales du Bas-Congo, c'est ce qu'ils appellent le mutisme du gouvernement congolais sur les conditions dans lesquelles ces Congolais sont refoulés. Ils sont dépouillés de tous leurs biens. Un responsable du district du Bas-Fleuve indique même que des femmes et des jeunes filles sont violées par des soldats angolais. À ce jour, indique une autre source de Tshiela, plusieurs Congolais seraient détenus dans les cachots et prisons de la province angolaise du Cabinda en attendant leur expulsion. Ce refoulement concerne aussi les personnes en situation régulière, a indiqué un refoulé interrogé. Faute de structure d'accueil dans toute la province du Bas-Congo, ces personnes dorment à la Belle Étoile, notamment au marché Malongo à Mwanda ou au centre commercial de Tshiela, avec comme conséquence la prostitution, la recrudescence du banditisme et la mendicité qui prend de l'ampleur dans ces zones, selon Yves Tombé. Pour contribuer à résoudre ce problème, Valentin Vangui, président du conseil régional des ONG du Bas-Congo et directeur des programmes de l'ONG Interaction, propose au gouvernement d'initier des pourparlers avec les autorités angolaises pour installer un consulat dans la province angolaise de Cabinda pour que ces refoulements se fassent selon les normes internationales en la matière.
Edmond Longo Kimbeza, vous êtes député national PPRD, élu du territoire de Tshiela au Bas-Congo. Quelle est la situation de ces compatriotes expulsés de l'Angola à ce jour, aujourd'hui par exemple?
Merci, monsieur le journaliste. Ce n'est pas pour la première fois que nous déplorons cette situation. Les Congolais, ce n'est pas seulement des Congolais du Bas-Congo, mais ce sont des Congolais qui sont provenus de toutes les provinces du pays. Donc vous trouvez là-bas toutes les tribus, les Baluba, les Bangala, les Bakongo, tout ça, tout le monde, donc il y a beaucoup de Congolais qui se retrouvent dans cette province-là. Et ce n'est pas pour la première fois qu'ils sont expulsés. C'est depuis longtemps. C'est une situation que je connais très bien, puisque j'ai géré les districts du Bas-Fleuve. Les Bas-Fleuves qui partagent avec la province de Cabinda une frontière de plus de 178 km. Alors, à peu près une vingtaine de frontières, donc de portes d'entrée. Et de la manière dont on expulse toujours nos frères, nos concitoyens, c'est déplorable. Et je dois vous avouer, parce que nous avons amené des enquêtes, il y a souvent des morts, et on tient le bruit, on ne parle pas de ces morts-là, et qu'on enterre uniquement quand on les expulse. Donc c'est une situation de longtemps. Et nous avons fait des rapports, quand j'étais conseiller ici du Bas-Fleuve, nous avons fait plusieurs rapports pour demander qu'on puisse créer un consulat. Mais malheureusement, les autorités n'ont pas encore marché. Et pas plus tard que le mois d'avril l'année passée, je fais un rapport au ministère de l'Intérieur pour solliciter l'ouverture des consulats dans cette province. Parce qu'effectivement, nos frères congolais sont exposés là-bas, sont abandonnés à leur triste sort.
Edmond Longo Timbeza, d'après vous, qu'est-ce que l'ouverture de ce consulat pourra concrètement changer?
Oui, peut-être que ça pourra changer quelque chose dans l'encadrement. Parce que si les gens ne sont pas encadrés, et s'il n'y a pas de mesures de sécurité, les gens vont. Parce que vous voyez, quand il n'y a personne qui a une voix de regard sur ce frère congolais, qui est installé de manière officielle, mais non, ces gens sont abandonnés, ils ne sont pas encadrés. Je pense qu'en créant un consulat qui va veiller, donc les autorités cabinaises ne vont pas se permettre le luxe de faire quoi que ce soit.
Merci.
Et encore, plus, je voudrais ajouter de faire journaliste.
Je vous en prie.
Le problème que nous avons là-bas, la province de Cabinda, tous les villages, les certains villages, parce qu'au nord, par exemple, nous avons le Bawoyo. Et le Bawoyo, il y a des surtout dans notre pays, ici, dans le territoire de Mwanda. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains villages de Mwanda, mais non, il y a des Congolais qui sont traversés, qui sont allés créer des villages là-bas.
Edmond Longo Kimbeza. Nous comprenons par là, vous voulez dire que des deux côtés, que ce soit de l'Angola ou de la RDC, il y a les mêmes peuples qui vivent de
même
part
et d'autre. Le même peuple, c'est des villages limitrophes. Donc il y a même des forêts, des Congolais qui traversent et qui respectent encore leurs limites ancestrales.
Voilà, alors Valentin Vangi Ndungi, vous êtes président du conseil régional des ONG de développement du Bas-Congo. Vous optez aussi, vous proposez également l'installation d'un consulat. À part l'encadrement dont a parlé Edmond Longo Kimbeza, quel autre avantage pourrait avoir l'installation de ce consulat?
Merci pour la parole, monsieur le journaliste. En fait, le consulat ne va non seulement jouer le rôle d'encadrement, mais aussi la considération du Congolais vis-à-vis des Angolais. Parce qu'en fait, quand ils auront à ce moment-là un interlocuteur, le gouvernement angolais se plaint du fait que, selon l'argument, que les Congolais, quand ils sont là-bas, ils sont en situation irrégulière. Mais qui doit encadrer ces gens? Qui pourrait servir d'interlocuteur sur place? C'est le conseil. Donc, quand il y aura toujours des refoulements, on va informer le conseil qui, à travers le président de la Polynésie congolaise, il va dire, écoute, et on va d'abord vérifier effectivement qui est en situation de régler et qui ne le pas. Parce que la réalité, monsieur le journaliste, on est en train de refouler les gens qu'on a attrapés, même à l'église, qu'on a attrapés à l'école. Vous comprenez? Et ça, ils ont pris considération par le fait que le gouvernement congolais n'est pas représenté dans cette province. Eh bien, ils trouvent qu'ils sont libres, ils n'auront personne devant lequel ils peuvent même se justifier. C'est vrai qu'il y a l'ambassade au niveau de Luanda, mais par rapport à ce qui se passe au niveau de Cabinda, ça nécessite qu'il y ait la présence du gouvernement congolais, ou d'abord aussi et surtout la considération de nos citoyens, citoyens congolais qui se trouvent là.
Donc, si je vous comprends, vous confirmez aussi qu'il y a ces compatriotes congolais qui sont en ordre, mais qui sont tout de même refoulés aussi, expulsés aussi.
Et je vis moi-même en personne en tant qu'activiste, je vous informe que je suis même, quand je vous parle, maintenant je suis à Chela, et c'est mon réseau d'action que nous intervenons jusqu'au dernier village là de Kaindi, où se trouve la frontière. Et donc nous sommes avec eux, et nous nous échangeons, il y a des preuves, et nous sommes témoins de violations des droits de l'homme et des violences dont les femmes sont victimes. Et donc, c'est vrai que la manière dont ça se passe, ça ne va pas. Donc, pour nous, nous trouvons que c'est vrai qu'il n'y a pas seulement un problème d'encadrement, mais aussi un problème de considération du Congolais à travers les représentants que nous aurons là-bas.
Valentin Moubaké, président du comité national de l'UDPS, à ce stade, votre lecture.
Bah, malheureusement, ma lecture rejoint le premier sujet que nous venions d'évoquer. Cela veut dire que le pays n'est pas considéré par nos voisins. Ce qui se passe en Angola se passe à Brazzaville et se passe partout ailleurs. Et je ne pense pas, malgré la bonne volonté de nos deux interlocuteurs, qu'il faille un consulat. Nous avons une ambassade. Une ambassade à Luanda. Mais étant donné que le Congo, c'est pour cela que nous parlions d'un changement au niveau du sommet. C'est le sommet qui donne l'impulsion. Pourquoi on pourchasse les Congolais à ce point? Nous n'avons plus de considération. Nous ne nous faisons pas respecter par nos voisins. Donc, il y a deux aspects. Il y a l'aspect des droits humains. Une personne en situation irrégulière, même si elle doit être refoulée, elle doit être refoulée dans des conditions, dans les normes requises. Et en ce moment-là, la responsabilité du gouvernement congolais est mise en cause parce que le gouvernement congolais doit défendre ses ressortissants partout où ils sont à travers le monde, quels que soient les griefs qui leur sont reprochés. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est celui du refoulement des irréguliers. Chaque pays a une réglementation et des lois relatives à l'immigration et à l'établissement humain. L'Angola applique ces lois, je ne veux pas juger s'il les applique mal ou bien. Le Congo, malheureusement, ne se comporte jamais comme un pays qui doit garder son patrimoine identitaire. Au Congo, n'importe qui entre, il fait n'importe quoi et le lendemain, il s'en va.
Mais au nom de la réciprocité, hein, la semaine, ça fait plus d'une semaine déjà que
on ne devait pas, des Angolais
et des Congolais de Brazzaville en situation irrégulière.
Mais c'est dommage, on ne gouverne pas un pays de façon relative, c'est de manière absolue. Si nous avons des lois qui doivent être appliquées pour sauvegarder nos intérêts, nous n'avons pas d'abord à savoir ce que font les autres. Nous devons nous préoccuper de nos intérêts, réglementer les problèmes qui se posent chez nous et appliquer les lois et les règlements qui sont les nôtres. Vous voyez que ce problème-là concerne un problème du contrôle du fichier démographique, c'est le problème de l'identité nationale, c'est le problème de la maîtrise même des secteurs économiques. Aujourd'hui, je termine par un exemple. Aujourd'hui, à Kinshasa, si des étrangers décident aujourd'hui, les boulangers, de ne pas produire, c'est la rébellion à Kinshasa. Eh bien, les Angolais sont en train d'examiner tous ces problèmes qui se posent dans leur pays. Je dis encore une fois, je ne sais pas s'ils le font bien ou mal. Ils appliquent les règlements chez eux. Appliquons le règlement chez nous et mettons des conditions pour que les Congolais restent chez nous pour travailler. Parce qu'il y a beau à rester chez soi, surtout dans ce pays, il y a plein de choses à gagner ici.
Edmond Longo Kimbeza, quelles pourraient être d'autres mesures pour humaniser les expulsions en dehors du consulat? Il y a par exemple Jack Chikomba, auditeur de Lubumbashi. J'ai une fois été témoin des expulsions des Congolais de l'Angola. C'est vraiment déplorable, mais pour les humaniser, il faut que l'État congolais soit en mesure de contrôler toutes les sorties de ses citoyens et s'assurer de leur retour au pays. Edmond Longo? Apparemment, nous avons des petits problèmes avec la ligne d'Edmond Longo Kimbeza, député national PPRD. Valentin Vangui, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Voilà, je vous repose la même question. Hein. Que faut-il, à part le consulat, quelle autre mesure pouvez-vous proposer en dehors du consulat pour humaniser ces expulsions?
Oui, mais à ce moment-là, pour arriver à humaniser les expulsions. Mais le problème, c'est que je reviens et je viens à mon, mon, c'est mon, mon interlocuteur qui vient de dire là qu'il y a un problème d'administration.
Valentin Moubaké.
Oui, oui, moi je suis Valentin Moubaké, oui, d'accord. C'est vrai, mon homonyme. Je disais que c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait des mesures au niveau de la maison. Allez-y au niveau de Saint-Pierre. Vous allez trouver un monsieur de la région qui a peut-être 5 papiers avec lui s'il y avait du travail. Vous comprenez ça? Donc, les conditions d'abord de travail de nos agents de sécurité commis en frontière devront d'abord être vraiment organisés pour qu'on arrive d'abord à bien contrôler par où d'abord de son vie. Parce que vous voyez, nous sommes à la frontière, les gens ont été là-bas, et vous vérifiez, parfois, il n'a même pas le laisser passer congolais, et puis je se retrouve de l'autre côté. Le pauvre agent de la deuxième qui est là, peut-être qu'il est seul, les conditions ne sont pas réunies, et bien de contrôle. Donc, tout ça, moi, je crois que nous devons revoir nos normes, nos lois par rapport même à l'immigration. Ce n'est pas de n'importe qui qu'on doit accorder les laissés-passer qui a le porte qui est libre de se déplacer et tout ça. Mais moi, je crois qu'on commence, en fait, on commence d'abord par là. Parce que vous verrez les jeunes gens de 16 ans qui traversent, qui vont en Angola pour aller chercher la vie. Et ils ont l'autorisation de sortie, ils ont les laissés-passer, ils parlent. Moi, je crois qu'il faudrait d'abord qu'on commence d'abord par réglementer ça. Pour que quand il y a de l'ordre d'abord de ce côté ici, en ce moment-là, on pourra voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux refoulés. Parce que quand ils se refoulent comme ça, ils viennent avoir. Bon, maintenant, les mesures de sécurité, c'est au niveau maintenant de nos frontières qu'il faudrait d'abord qu'on installe des structures d'accueil dans tous les postes frontaliers pour pas les refouler. Comme ça, déjà, à ce moment-là, ils sont d'abord reçus. Bien enregistré, contrôlé, parce qu'il est là. Le danger, c'est quoi avec ces gens? Il faut se poser la question de savoir si tout ce qui vient, ils sont réputés, est-ce qu'ils sont réellement des Congolais?
Merci.
C'est encore un autre problème.
Merci.
Donc, pour moi, je me dis qu'il faut d'abord qu'on puisse réglementer les sorties de nos concitoyens qui quittent le pays qu'ils ont là-bas, qui doivent parler de n'importe comment.
Merci. Edmond Longo, Kimbeza, vous êtes de nouveau en ligne.
Oui, monsieur le journaliste.
Voilà, à part cette solution du consulat, de revoir les normes par rapport à l'immigration, qu'est-ce que vous pouvez proposer d'autre en vue d'humaniser ces expulsions?
La première chose que moi je propose, il faudrait d'abord que les autorités angolaises comprennent que c'est un même peuple. Donc vous voyez, monsieur le journaliste, dès qu'ils expulsent les Congolais, deux jours après, ils sont dans la misère, parce qu'ils sont nourris par les Congolais. Ici, à l'ambiance dans cette province, c'est grâce aux Congolais. Donc, vous voyez, ils leur vendent des documents, leur permettent de vivre dans cette province. Et quand ils expulsent, ils reçoivent le même matin. Parce que vous voyez, quand on fait les jetés à frontière, deux jours, trois jours, il y en a qui rentrent encore par les petits transfrontiers, et ils les reçoivent encore. On leur donne encore des documents, leur permettant de vivre en cabine. Donc, c'est un moyen de commander la tête tout le temps par ces autorités. Donc, il faudrait d'abord que les autorités angolaises sachent que c'est un même peuple. Les diviser, c'est pratiquement impossible.
Valentin Moubaké, il nous reste une minute pour terminer l'émission. Faites déjà aussi votre conclusion.
Oui, bon, je crois que monsieur le député, monsieur le président du CLONG, non, il faut savoir que chaque pays se gère conformément à ses intérêts. Et les intérêts que vous évoquez là du même peuple, dès lors qu'il y a deux pays différents, je ne sais pas si vous aurez facile à les faire valoir au niveau du gouvernement angolais. Le gouvernement angolais est en train de s'organiser, organiser son administration, organiser ses établissements humains, organiser sa population conformément à ses lois. Il appartient au Congo de faire la même chose. Le Congo, c'est un pays différent du Rwanda, de l'Angola. Le Congo doit s'organiser aussi, mais ce que nous devons tout simplement demander à l'Angola, c'est que des expulsions des Congolais ou d'autres ressortissants d'autres pays doivent se faire dans les normes requises et non pas telles que nous sommes en train de les voir à la télévision, entendre par la radio.
Valentin Vangui, un mot aussi en guise de conclusion. Un mot.
Bon, en fait, ce que je dirais, on doit davantage encourager la réforme de la sécurité, parce que c'est très important. Il faudrait que l'État, comme on le s'organise, et organise, mette en place des structures d'accueil au niveau des frontières.
Merci.
Je pense que tout ce qui pourrait améliorer les conditions de nos fonds pour
être. Merci Edmond Longo Kimbeza, un mot aussi pour terminer cette émission.
Merci monsieur le journaliste. Moi je crois que les autorités angolaises doivent suivre l'exemple des autorités congolaises. Depuis longtemps qu'ils ont commencé à expliquer, à mener des actions inhumaines contre les Congolais, et les autorités congolaises observent, ils essaient de demander qu'on négocie.
Merci.
Donc, ils doivent suivre l'exemple des autorités congolaises.
Merci, merci.
Ils ne sont jamais expulsés de toute manière. Là,
merci. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était de Guy Mathieu, assisté de Kéline Kouté, Samuel Kacha, coordination Martin Sebujangwe, mise en onde Héritier Sigakala, présentation Alain Irung. L'information continue sur www.radiokapi.net.